C'est toujours le mag sur Maximum jusque midi. Comme promis, on entame notre séquence hebdomadaire intitulée « C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça ». Christian Quinault et Given de Norguette nous présentent chaque semaine des bonnes nouvelles dans le monde des entreprises de la région.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Merci Elise, très heureux de vous retrouver ce dimanche, comme chaque dimanche. Mon cher Given de Norguette est avec moi. Bonjour Guy.
Bonjour Christian.
Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler, vous avez vu, j'ai mis mon pull vert.
Oui.
Ah, c'est parce qu'on a invité deux marques hein, sur ma gauche, le professeur Damien Hens, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'énergie,
j'ai
on va parler...
de carte de parti.
S'il vous plaît.
Je n'ai pas de carte de parti,
même si non, je discute beaucoup d'économie. Non, non, alors là, loin de nous l'idée de parler de politique, surtout pas. Bon, quelque part, il faut bien reconnaître qu'on n'a jamais parlé autant de climat que maintenant, parce que c'est la carte de visite de beaucoup, à la veille des élections. Est-ce comment vous expliquer ? Est-ce que c'est un hasard ? Je ne pense pas. Mais il est clair qu'il y a une nécessité, on va en parler. Donc le professeur Damien Hern, sur ma gauche, Université de Liège, cofondateur, si je ne me trompe, Blacklight.
Blacklight
c'est un homme qui a décroché également une médaille prestigieuse, la médaille Blondel. Je sais
exactement.
Que ça vous a profondément touché. C'est une distinction qui est remise en France, si je ne me trompe,
oui.
Et que vous avez ramené évidemment à l'Université de Liège.
Voilà.
Et nous en sommes évidemment fiers. Face à lui, Romain Simard. Alors Romain Simard, c'est une personne que j'ai connue il y a quelques années, c'est un petit peu le missile HEC, analyste financier de la société Best Value. Bonjour Romain.
Bonjour Christian.
Bien, Best Value c'est quoi ? C'est en deux mots ?
Best Value c'est une société basée à Liège dans la transmission entreprise.
D'accord, sur le rachat, la vente ?
Les deux. Donc on accompagne vraiment les entrepreneurs dans l'achat et la vente d'entreprises.
D'accord. Et si par hasard, il y avait une reprise d'une génération à l'autre de la société, c'est un dossier que vous pouvez prendre également ?
Tout à fait.
Parfait, c'est une bonne nouvelle, on en parlera tout à l'heure. Mon cher Given de Norguette, sûrement quelques bons chiffres à nous sortir, des productions de...
Non, il n'y a plus de production, c'est pas comme la semaine passée, il n'y a pas de production. Non,
oh, je suis déçu.
Oui, je sais, on a battu le record de vin, mais voilà, mais non. Non, ici on a battu le record de création d'entreprises en 2018.
Ça me paraît
c'est quand même pas mal.
Ça me paraît
on a quand même passé la barre des 100 000 entreprises en Belgique.
Les tendances au niveau de notre pays, c'est...
Mais grosso modo, on a les tendances qui recouvrent à peu près la répartition géographique. On a 60% vers la Flandre, 30% sur la Wallonie et 10% sur Bruxelles. C'est grosso modo les tendances. Avec une forte, c'est vrai qu'en Flandre, il y a quand même une assez forte augmentation, qui correspond d'ailleurs, et ça c'est un autre chiffre qui est très intéressant pour la Flandre, ils sont à 3,5% de chômage seulement, contre à Bruxelles, on est à 13,4%, et on est à 8,5% en Wallonie.
Donc là, ils sont... Il y a eu une réflexion dernièrement sur les confrères de l'N24, on disait justement que le plus gros développement en fait, des entreprises, c'est Bruxelles.
Oui.
D'accord. Mais que malheureusement, c'était là aussi où on avait le taux de faillite le plus important.
Oui, on a le taux de faillite le plus important. Et puis, on a un problème, enfin, il y a beaucoup de problèmes à Bruxelles. Le principal problème, c'est un problème de mobilité, ça c'est clair, qui fait que maintenant, les entreprises se déplacent. Donc, les entreprises se déplacent parce que beaucoup d'entreprises à Bruxelles ont des clients en Wallonie ou en Flandre. Et maintenant, la tendance, c'est de garder une adresse à Bruxelles, mais d'avoir des bureaux, par exemple, à Namur ou à Gand. Namur pour couvrir la Wallonie et Gand pour couvrir la Flandre, par exemple.
D'accord.
Ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en
et
plus.
Et qui se confirme, effectivement.
Et qui se confirme.
Bien, on va arriver sur le sujet, professeur Damien Hens. J'ai un article qui est sorti du Trends. Je ne sais pas si le chiffre vous dira quelque chose. 1,151 milliard d'euros, d'accord. La valeur de l'électricité importée en Belgique en 2018, doublée par rapport à 2017. C'est quand même des chiffres interpellants. Alors, vous, évidemment, on sait que c'est très important. La première réflexion, évidemment, sur l'énergie... Est-ce que d'abord, dans l'avenir, dans notre avenir proche, on ne va pas manquer de compétences pour gérer cette énergie future ?
Bah, c'est possible, parce que bon, il y a quand même énormément de travaux à faire hein, dans le futur pour y adapter nos réseaux électriques, réaliser cette transition énergétique. Donc il y a très clairement un manque d'ingénieurs, aussi de techniciens à tout niveau pour réaliser cette transition énergétique. Donc oui, il va y avoir un manque de compétences. Est-ce que ça va provoquer un blackout ? Non. Mais est-ce que ça va ralentir cette mutation nécessaire de nos sociétés ? Oui, certainement.
Une question que je vais vous poser, c'est suite à une déclaration que vous avez faite sur la Libre. Vous auriez déclaré donc 90% des nouvelles voitures en 2025 seraient électriques. C'est quand même après-demain, ça, à peu de choses près.
Oui, c'est après-demain. C'est vraiment après-demain et je le pense réellement. Mais donc tout le monde me dit c'est impossible. Mais regardez, il y a 10-11 ans, est-ce qu'on parlait de smartphone ? Tout le monde
oui, tout
a un smartphone, quoi. Donc pourquoi est-ce que je pense que 90% des voitures vont être électriques en 2025 ? Parce qu'en 2025, à mon avis, pour une voiture, une 400 km, hein, on parle de 400 km, en prix d'achat, elle sera plus ou moins équivalente à une voiture essence ou diesel de plus ou moins de la même catégorie, mais elle sera nettement moins chère à l'usage. Donc moins de frais de carburant, moins de frais d'énergie, moins de frais d'entretien, moins de frais d'assurance, tout ce que vous voulez. Et donc là, effectivement, ce sera un choix rationnel, économique, que d'acheter en fait une voiture électrique. Et là, du jour au lendemain, à partir du moment où le business case est vraiment vert pour les véhicules électriques, vous expulsez complètement les véhicules à essence et diesel du marché. Et déjà à l'heure actuelle, pour les voitures un peu style, allez, Golf, on va pas citer de marque, mais ce type de voiture-là, ou les entrées là, chez BMW, ben, vous remarquez en fait que sur une durée de vie de voiture, ben, c'est mieux d'aller vers une électrique, une Model 3 par exemple de chez Tesla. Donc le point de basculement, en tout cas pour les moyens de gamme en fait, et les hauts de gamme, il a déjà eu lieu, oui.
Alors, je vous pose la simple question, avant qu'on passe sur la première pause musicale. Donc, pour vous, la voiture 100% électrique, incontournable ?
Incontournable, oui.
Incontournable. On va développer ça juste après la pause musicale. À tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Deuxième séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, avec mon ami Guy Van Allerguet, le professeur Damien Hens sur ma gauche, Romain Simard sur la droite. Bon, véhicule électrique. Et forcément, c'est un sujet plus que d'actualité. Je voulais avoir votre réflexion parce que on a parlé dernièrement d'un projet. Enfin, c'est plus un projet d'ailleurs, ça a démarré. Le fameux prototype belge qui fascine le monde entier. Ah oui, le fameux projet Mira, c'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur, ça, à mon avis.
Ah oui. Pour moi, c'est un des actes majeurs en fait de la législature courante du fédéral. C'est le financement de Mira, ce réacteur expérimental. Ils ont quand même mis 500 millions sur la table.
C'est qui est pas mal, 580. 23, ouais, je ne me trompe pas, pour être précis.
Oui, réparti quand même sur plusieurs dizaines d'années. Alors, et donc, qu'est-ce que ce réacteur va permettre de faire ? Ben, c'est en fait un accélérateur de particules, de protons.
C'est ce qu'il y a déjà en Suisse, en fait, quelque part. Ça y ressemble ou pas, l'approche ?
Ouais, c'est des accélérateurs. Est-ce qu'on est en avance ? Ben, c'est une autre technologie, d'accord. En fait. C'est une autre technologie.
Vous savez qui minimise le risque ?
En fait, qu'est-ce qu'elle va permettre, cette technologie-là ? Elle va permettre, de retraiter des anciens déchets nucléaires, ce qu'on appelle les transuraniens, qui ont une durée de vie de 300 000 ans, les ramener à une durée de vie de 300 ans. Donc, en gros, ça veut dire que vous pouvez les stocker dans un bâtiment. On sait construire un bâtiment qui dure 300 ans, plus besoin d'avoir des problèmes pour retraiter ces déchets. Et deuxièmement, cette technologie-là pourra permettre, en fait, de créer des réacteurs nucléaires intrinsèquement sûrs, en fait, où il y aura plus jamais de problèmes à la Fukushima, à la Tchernobyl. Donc on sait à la fois, avec cette technologie-là, avoir des réacteurs nucléaires sûrs et des réacteurs nucléaires qui n'émettent pas ou quasi pas de déchets.
Alors professeur, moi j'ai une question à poser, basique. D'après la déclaration du cofondateur Mira, on parle d'un emploi de plus de 1000 personnes sur 40 ans dans le très haut niveau. Alors est-ce que vous avez une piste pour savoir d'où ces 1000 personnes, on va pouvoir les préparer à ce nouveau, parce que je le répète souvent, évidemment, au niveau des diplômes, c'est pas le problème, c'est les compétences. À votre avis, on va aller chercher ces 1000 personnes où?
Ah, ça va être difficile.
Ah, oui,
ils vont devoir aller les chercher sur la scène internationale. En plus, ils auront un master, un programme de formation au SCKGEN dans le domaine du nucléaire. Et je pense que cette année, il n'y avait aucune personne qui était inscrite dans ce programme-là. Oui. C'est un peu catastrophique. Surtout qu'ils vont avoir besoin en fait, de compétences en fait, pour créer ce générateur-là. Mais je pense qu'ils peuvent aller chercher des gens qui ont fait des parcours de physique ou d'ingénieurs physiciens classiques. Beaucoup d'ingénieurs, des ingénieurs électriciens aussi, pour les former un peu sur place. Maintenant, attention, ils ont reçu subside là, de plus de 500 millions de l'État belge, mais il faut encore la construire, la machine. Hein,
oui,
parce que ici, c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous savez nécessairement la construire. Et ça fait quand même longtemps en fait, que le SCKGEN n'a plus construit de réacteur. Je pense que le dernier réacteur qu'ils ont construit ou qu'ils ont co-construit, c'était le BR2 qu'ils utilisent toujours à l'heure actuelle, qui a été construit dans les années 60. Donc, je pense que le gars qui est le chef de projet en fait, de Mira, ben, il doit stresser. On vous donne un demi-milliard d'euros pour construire une machine qui est quand même technologiquement très avancée. Et la dernière machine que vous avez construite, c'était dans les années 60. Donc, il n'y a plus de transfert d'expertise de cette génération-là. Donc, ce n'est pas évident. C'est un superbe projet. Mais ils vont quand même avoir dur et ils vont stresser pour le
Au niveau des recherches, du financement, parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle une AISBL,
voilà, tout à fait.
Donc une association internationale sans but lucratif, pour générer quand même 1 milliard. Et à votre avis, ça, par contre, ça peut peut-être marcher.
Oui, je pense que ça peut marcher. Et donc ici, on leur offre un immense jouet de recherche dans lequel ils vont pouvoir faire plein de choses, tester aussi des nouveaux matériaux, designer des isotopes, des nouvelles méthodologies pour faire des isotopes au niveau médical. Il n'y a pas que l'électronucléaire, loin de là. Donc avec ça, ils vont pouvoir générer des recherches, des résultats de recherche, et pourquoi pas commercialiser des nouveaux produits, des nouveaux procédés, de la connaissance. Donc voilà, autour de MIRA, s'il la joue bien, hein, parce qu'il faut vraiment avoir cet esprit entrepreneurial, il pourrait créer un écosystème d'une richesse extraordinaire en Belgique. Et je souhaite vraiment qu'il le fasse, qu'ils aient vraiment dans la direction de l'entrepreneuriat autour de cette machine MIRA qui leur est offerte. C'est peut-être une culture qu'ils n'ont pas encore à 100% au SCK Gênes.
Oui. On va voir ça de très très près. Professeur, restez avec nous. Sur ma droite, Romain Simard, analyste financier, Best Value, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Tout se passe bien ?
Très bien.
À ce premier poste, pas vraiment, en fait, quelque part dans le secteur entrepreneurial, quelque part où il y a eu de l'impression à une époque.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, vous êtes un des premiers, enfin, dans les premiers, on en parlait souvent, mais en tant qu'étudiant, d'avoir créé sa propre entreprise.
Tout à fait.
De la mettre en route. Et presque toujours comme étudiant, revendre son entreprise pour repartir dans une autre.
Exactement.
Ne perdez pas de temps, vous, M. Simard.
Non, donc...
Expliquez-nous un petit peu, Best Value.
Oui, donc Best Value, donc, c'est une entreprise active dans la transmission et l'acquisition d'entreprises basées à Liège. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne tout entrepreneur désirant ou vendre son entreprise ou acheter une autre entreprise.
D'accord, peut-être rechercher des entreprises pour la société MIRA. Hein, il y a peut-être un moyen, je ne sais pas. On cherche un milliard. Donc voilà, vous écoutez.
Donc nous, concrètement, on accompagne vraiment l'entrepreneur dans toutes les phases d'une transmission d'entreprise. C'est vraiment une étape clé pour la personne qui désire vendre son entreprise. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que vaut mon entreprise ? Donc on utilise toutes des méthodes financières adaptées à la taille de l'entreprise. Donc nous, concrètement, on s'attaque vraiment à des entreprises TPE, PME, et même des entreprises familiales
Mais
de
justement,
la
dans les entreprises familiales, c'est une réflexion. À l'époque, rappelez-vous, mon cher Guy Van Orguet, le Trends avait fait quelques grosses réunions sur la transmission du patrimoine d'une génération à une autre, parce que c'est extrêmement délicat. Est-ce que c'est un dossier, en fait, que vous pouvez prendre en compte également ?
Tout à fait. La transmission d'une entreprise familiale est très importante. Et donc, justement, faire appel à un cabinet spécialisé en transmission permet justement de valoriser les parts d'une entreprise, donc que vaut l'entreprise, d'éviter tout conflit au sein même d'une famille et d'avoir vraiment des démarches qui sont professionnelles pour éviter tout conflit futur.
Parce que vous savez sûrement les chiffres, mon cher Guy, vous êtes l'Hercule Poirot de l'économie. 60% des entreprises sont familiales. C'est quand même énorme. On va débattre de ça juste après la deuxième pause musicale. À tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Nous sommes dimanche, nous sommes heureux de vous retrouver évidemment pour du positivisme. Et que du positivisme, que ce soit d'une boulangerie, du secteur nucléaire, que ce soit du secteur automobile. Il faut bien dire, mon ami Guy, qu'on est assez diversifié. Tout du moins,
oui,
nous essayons.
Ouais.
Voilà, la grande chance d'avoir un homme qui a un agenda de Premier ministre, mais qui est quand même avec nous, le professeur Damien Hens, bonjour, l'Université de Liège. Et sur la droite, mais c'est un missile, hein, je l'ai dit, je l'aurais dit, Romain Simard, analyste financier, Best Value. On se demande d'ailleurs où il va aller. On va bien garder sous le bras, hein, mon cher Guy, parce que je pense que sa carrière va, si maximum nous garde dans ses murs, ça pourrait vraiment être très intéressant. Donc voilà, le passage d'une entreprise à une autre, définir sa valeur, c'est quand même assez complexe, parce que on a encore eu des événements dernièrement au niveau des entreprises. Les entreprises sont revendues et puis un an après, on se rend compte qu'il y a une tuile quelque part. On n'a pas eu tous les éléments. On se demande d'ailleurs comment c'est possible. Je vous vois sourire, mais on n'en parlera pas. Je disais, mais comment est-ce que c'est possible ? Parce que c'est quand même des bureaux, soit d'avocats, relativement pointus, des entreprises comme la vôtre. Comment est-ce qu'on pourrait cacher des chiffres sur un bilan, entre guillemets, comptable ?
Alors, nous, on ne cache aucun chiffre. L'idée, c'est vraiment de ne pas mentir à quelqu'un qui voudrait acheter une entreprise. Donc, ce qu'on fait, on réalise vraiment une étude qui est totalement transparente, qui est d'abord validée fatalement par le candidat cédant. Et nous, une fois qu'on s'est mis d'accord, un, sur la valeur de l'entreprise qu'on peut en attendre, deux, les informations qu'on peut diffuser ou non au candidat acquéreur, mais c'est de faire vraiment une recherche d'acquéreur et de discuter avec eux et d'accompagner le cédant dans une négociation qui est la plus transparente pour les deux parties.
Est-ce qu'il y a une évolution sur la recherche de marché ou ça sort d'où en fait ? Il y a vraiment une demande ? Il y a des investissements qui se font, comment ça se passe?
Mais donc en fait, ici, on est vraiment dans une période charnière, puisqu'on a énormément d'entreprises où le dirigeant a 60, 70 ans, donc veut prendre sa pension et se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je fais? Soit j'arrête totalement mon activité, j'ai peut-être 10, 15, 20 personnes derrière moi qui vont se retrouver au chômage, ou est-ce que j'essaye de trouver un acquéreur? Et nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient, c'est de retrouver le bon acquéreur en fonction du secteur d'activité. Donc nous, on est vraiment spécialisé, on est dans tous les secteurs industriels puisqu'on est accompagné d'une équipe pluridisciplinaire et d'en assurer justement la pérennité de l'entreprise. C'est vraiment notre objectif, assurer la pérennité du tissu économique wallon aujourd'hui.
Mon cher Guy, une réflexion sur le sujet très intéressant évidemment.
Oui, j'ai juste une réflexion, c'est que souvent dans les questions de transmission ou de vente, de cession et tout ça, je ne sais pas s'il peut confirmer, mais j'ai l'impression que ce n'est même pas une question d'argent, c'est d'abord une question de personne. C'est vraiment une question psychologique entre les différentes personnes qui sont dans l'entreprise. Mm-hmm. Quand c'est une entreprise familiale, ça peut être parfois catastrophique.
Professeur, une réflexion sur le sujet ?
Je connais aussi beaucoup de jeunes entreprises ou même de moins jeunes comme ça, où parfois même le CEO de l'entreprise veut faire quelque chose d'autre et la vente, et c'est extrêmement difficile hein, parce que souvent des petites entreprises de 5-10 personnes, elles tiennent aussi grâce au charisme en fait un peu du fondateur, du CEO, de son carnet d'adresses. Donc déterminer la valeur de ces machins-là en perdant le fondateur et le gars qui a la tête, c'est extrêmement difficile.
Parce qu'on va de plus en plus vite. C'est une réflexion que j'ai déjà sortie plusieurs fois. On est extrêmement connecté. On communique très mal. Mon dernier article du Trends, 2 millions d'euros, c'est le montant levé par une start-up bruxelloise. En fait, qu'est-ce que c'est ? Obtenir son statut d'indépendant depuis son smartphone. Donc en fait, on a une levée là, direct, vous l'avez peut-être vu mon cher.
Non, j'ai pas vu ça.
Vous n'avez pas vu ces journaux
Trends ? Je sais.
Donc 2 millions de fonds pour obtenir un statut d'indépendant, donc pour avoir la fameuse application pour obtenir. Ça vous fait pas peur ça, vous, monsieur Simard ? J'ai l'impression qu'on s'engage, je vais pas dire à la légère, mais s'investir comme indépendant, c'est quand même lourd. On a des moteurs qui sont là pour faciliter la tâche administrative. Mais quand je vois ça, moi, ça m'inquiète un peu. Je me dis, bon, on ne s'inscrit pas comme ça en 3 minutes, un engagement pareil. Est-ce qu'on se réalise les conséquences? Je pose la question à tous les deux, je ne sais pas. Votre avis?
Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'il y a un vrai business, en fait, pour des startups, pour développer une couche informatique agréable au-dessus en fait des couches un peu administratives qui sont mises à disposition du citoyen par l'État ou par les régions. Il y a un vrai business. Ce business-là, vous pouvez le retransposer à toutes les interactions que vous devez faire avec une administration en fait. Hein. Donc vous créez simplement une couche informatique sympathique en fait, qui fait abstraction de l'autre couche. L'autre jour, ce week-end, pour la première fois, je vais sur le site du fédéral pour aller voir ma pension, en fait. Je vois tout, je vais me dire, je vais aller voir une fois combien j'ai pour ma pension. Mais c'est une catastrophe, ce site-là, c'est une catastrophe.
Le montant de ma pension, là
L'interface sur le site, mais vous vous dites, ils n'ont jamais travaillé avec des UX designers, enfin... Mais je suis en Corée du Nord ici quand je vois ce genre de site. Et donc vous vous dites, effectivement, il y a un vrai business pour une personne pour créer une app. Hein, vous faites juste le même type de connexion et qui fait l'interface avec ce site-là et qui présente des résultats de manière un peu plus intuitive, agréable. Donc moi, je suis super content que ces jeunes-là aient pu lever 2 millions et j'encourage d'autres jeunes à le faire dans d'autres secteurs. Et pour l'État, ce serait beaucoup plus rapide en fait qu'il y ait des entrepreneurs en fait qui est dans cette direction-là, qui ne définissent jamais eux-mêmes un seul interface, parce qu'ils font ça par marché public, c'est une catastrophe sans nom, qui mettent juste une description des bases de données et à manière de se connecter aux bases de données et qui ne fassent plus rien et qui laissent des entrepreneurs le faire. Ça coûtera 100 fois moins cher, réellement 100 fois moins cher, ce sera 100 fois plus efficace, il y aura suivi une évolution des choses-là, parce que chaque fois qu'il faut un marché public pour un site, c'est gelé pour 20 ou 30 ans en fait. Non, c'est magnifique ce que ces jeunes ont fait là. Oui.
Romain Simard, conclusion, site internet de la société, est-ce que vous avez de la concurrence malgré tout sur votre secteur ?
Alors, il y a d'autres acteurs, maintenant, comme je dis toujours, il faut avoir et à manger pour tout le monde, mais on est vraiment, on a notre spécificité, nous on mise vraiment la proximité du client, et je pense que c'est ce qui nous différencie.
Et justement, vous tendez une perche au niveau du secteur géographique de vos services.
Donc, aujourd'hui, on est actif en Wallonie et dans le nord de la France, prochainement en Flandre, mais évidemment, l'objectif de Best Value est de venir, d'aller au-delà de nos frontières.
Actuellement, nombre de collaborateurs ?
On est 15 collaborateurs.
Parfois, c'est déjà pas mal ça. Ça a été écrit il y a combien de temps ?
Ça a été écrit il y a plus ou moins 5 ans.
D'accord, c'est récent. Recherche de nouveaux collaborateurs dans le futur peut-être ?
L'idée est donc de continuer dans cette voie, donc le développement de l'entreprise. Et donc pour assurer le développement à moyen, à court terme, moyen terme, il y aura des engagements tout à
Parfait.
Fait.
Parfait. Mon cher Guy Van Allergate, conclusion ?
Non, moi je n'ai pas de conclusion.
C'est bon ?
Oui, c'est bon.
Tout va bien ?
Tu as fait tout autre chose.
Oh, on se retrouve dimanche prochain.
Oui, oui,
mypension.be.
Oui, mypension.be.
Oui, oui. On va aller voir notre pension en parenthèse.
Oui,
parce
oui,
que je crois que le temps qu'on fasse.
Mais non, mais non, mais non, après ce qu'a dit le professeur, je ne sais pas si je vais y aller. Jacques, moi je ne suis pas doué en informatique.
D'accord. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie, professeur. Grand merci d'être venu avec nous au studio. Merci, Romain Simard. On se retrouvera très certainement. Prochainement, je vous souhaite évidemment tous et à toutes un excellent dimanche. Profitons du temps que nous avons encore à essayer d'exploiter tous ces petits outils de la vie qui sont encore là. C'est très important. Mon cher Guy, à bientôt.
À dimanche prochain.
Merci.
Merci Christian Quinault et Guy Van de Norgate qui nous présentaient leur séquence C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Petite pause musicale avant d'entamer la prochaine partie du mag de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous parlera de la saison 2019-2020 du Théâtre de Liège qui a été présentée cette semaine.